Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex. Aujourd'hui, c'est le 29e numéro de notre émission Mare Nostrum, avec Fabrice, à la technique, et votre serviteur Raymond, qui a préparé et présente cette émission. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder porte sur la vie politique dans le royaume des deux Siciles, dans la première moitié du XIXe siècle, une période importante pour l'Europe. Donc cette période dans le royaume des deux Siciles est importante aussi pour l'Europe. Alors pour évoquer ce thème, nous recevons Pierre-Marie Delpus. Bonjour.
Bonjour Raymond Follin.
Vous êtes donc docteur en histoire contemporaine, enseignant au laboratoire TELEM, Temps, Espace, Langage, Europe méridionale, Méditerranée, qui fait donc partie de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, MMSH, au sein d'Aix-Marseille Université, avec qui nous sommes partenaires. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique et sociale dans l'Europe méridionale au XIXe siècle, et vous avez plus particulièrement travaillé sur l'Italie du Sud. Alors, vous avez quelques publications récentes qui montrent ces directions de travail. En octobre 2018, vous avez participé à un ouvrage collectif, dirigé un ouvrage collectif, avec Mélanie Traversier. Dites-moi si je me trompe, si j'écorche les noms, c'est jamais. Igor Moulier. Cet ouvrage collectif porte sur le royaume de Naples à l'heure française, revisiter l'histoire du Decennio Francese, voilà, c'est ça. Donc c'est l'heure française. 1806-1815, aux presses universitaires du Septentrion.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, vous allez publier, voilà, très très bientôt, votre thèse.
À la fin du mois.
Voilà, à la fin du mois, ça va sortir à la fin du mois, avec le titre « Un autre... » Alors, je m'embrouille dans les...
Risorgimento.
Un autre Risorgimento, donc dans le royaume des deux Siciles, 1815-1856. Donc, ce sont les éditions françaises, les éditions de l'École française de Rome.
Tout à fait.
Voilà. Voilà vos dernières publications. On va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, le sujet, c'est donc bien le royaume qu'on appelle le royaume de Naples et de Sicile, ou le royaume des deux Siciles. Puisqu'il y a, je crois savoir, la Sicile continentale et la Sicile insulaire, c'est ça. Et donc, avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais que vous me disiez quelques mots pour nos auditeurs des conditions de cette recherche. Pourquoi ce sujet? Quel est son intérêt? Est-ce que, au niveau de la recherche, ça a posé des problèmes particuliers pour aboutir à ce travail important?
Alors la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est que je m'intéressais au départ aux formes de la politisation, aux formes de la construction du politique dans l'Europe de la première moitié du XIXe siècle, une période marquée par des recompositions importantes de la vie politique dans un contexte où une grande partie de l'Europe est héritière de la période de la Révolution française et de l'Empire. Alors, ce qu'on remarque en particulier dans une grande partie des pays d'Europe méditerranéenne, on retrouvera à peu près la même chose en Espagne. On retrouverait aussi dans d'autres États de la péninsule italienne, il y a à peu près une douzaine d'États en Italie au début du XIXe siècle. On retrouverait un petit peu la même chose en France méridionale, c'est que on voit se développer des formes entre guillemets modernes de la politique, mais qui s'appuient sur des formes de politisation préexistantes. En gros, c'est-à-dire qu'elles se fondent sur les pratiques sociales, sur les pratiques ordinaires, c'est-à-dire en gros sur la manière dont vivent les gens, sur leurs pratiques sociales, sur leurs pratiques de vie courante. Et le politique trouve sa place finalement dans ces usages, dans ces manières de faire qui ne sont pas politiques au départ. Alors ce phénomène a été qualifié par des historiens de naissance de la politique moderne, et ce qui m'intéressait de voir finalement, c'était de quelle manière est-ce que ce phénomène se trouvait à l'intersection d'une autre des grandes évolutions de l'histoire de l'Europe du XIXe siècle, c'est-à-dire la naissance du sentiment national, la naissance des nationalités qui se confirmaient au lendemain de la Révolution et de l'Empire. Alors j'ai choisi ce terrain méridional, je vais travailler sur l'Italie pour des raisons culturelles, pour des questions d'intérêt personnel, pour des questions linguistiques également. Alors j'ai été confronté à plusieurs problèmes. D'abord, les phénomènes sur lesquels j'ai travaillé sont très différents selon les endroits de ce royaume qu'on appelle, il y a une expression qu'on trouvait au XIXe siècle, qu'on trouve encore aujourd'hui, hein, les journalistes appellent toujours cette partie-là de l'Italie de cette manière-là, ils la qualifient de paese a macchia di leopardo, en français c'est le pays à tache de léopard, précisément parce qu'une situation, un phénomène qui pourrait se présenter de telle ou telle manière dans une des régions, ou dans une des vallées, ou dans un des villages de ce Mezzogiorno, peut apparaître complètement différent. En fait, il y a des variations locales qui sont extrêmement fortes, parce que la vie sociale dans ce sud italien se construit autour du village ou autour de la vallée. Ainsi, il est très difficile pour ces gens du sud de l'Italie de s'identifier à la péninsule italienne en général. Il leur est également très difficile de s'identifier à ce qu'on appellerait la nation napolitaine, hein, c'est une des grandes notions du XIXe siècle, c'est-à-dire, en fait, le royaume des deux Siciles entendu comme étant une communauté politique. Cette communauté politique fait référence, elle est envisagée comme telle par la monarchie, on la retrouve dans les discours, néanmoins, la capacité d'identification des acteurs politiques du Mezzogiorno se fait en priorité au village ou à la vallée. Donc, pour faire cette recherche qui a d'abord été ma thèse avant d'être le livre qui va sortir très prochainement, j'ai dû me déplacer dans un certain nombre des centres d'archives de l'ancien royaume des deux Siciles. J'avais choisi des observatoires, Naples parce que c'était la capitale, même si c'est une région tout à fait particulière, en fait, c'est-à-dire que les révolutions n'ont pas pris parce qu'il y a une très forte politisation contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on a plutôt des gens qui sont très pauvres, qui sont attachés au Bourbon de Naples, et j'avais choisi à l'inverse des régions dans lesquelles le mouvement révolutionnaire, le mouvement qu'on va qualifier progressivement de libéral, je reviendrai sur cette désignation au cours de l'émission, politisation libérale, en fait, a été beaucoup plus dynamique dans d'autres espaces, en particulier dans les Calabres, où elle a revêtu, en gros, les formes de l'opposition au Bourbon, qui se sont plus ou moins confondues avec le patriotisme napolitain et italien. J'avais choisi aussi de travailler sur la province de Salerne, parce qu'il y a des contestations rurales très importantes qui posent la question de leur caractère politique ou non, et je m'étais intéressé aussi à encore une autre province, qui était celle d'Avellino, on est à peu près à 40 km au nord-est de Naples, où on a une région qui est particulièrement marquée par un phénomène révolutionnaire très fort en 1820-21, alors qu'après, la situation politique de cette région se normalise considérablement. En gros, je n'avais pas d'archives qui étaient centrales, je ne pouvais pas faire l'histoire de cet espace à partir d'un seul observatoire. Il y avait aussi des questions linguistiques, puisque seule une partie des élites parle italien à ce moment-là. Beaucoup de documents sont écrits en napolitain, en calabré, et il y a un effort justement de ces élites politiques pour utiliser, pour faire exprès d'utiliser le napolitain et le calabré, pour essayer d'amener une partie des masses méridionales à la politique. Le problème que j'ai eu aussi, c'est qu'une partie de ces archives ont été détruites. Il y a de très très gros problèmes de conservation. Des archives qui se trouvent, pour certaines, dans les papiers privés d'un certain nombre de familles, qui ne sont pas forcément toujours d'accord pour que leur histoire soit connue, en particulier par des chercheurs étrangers. Et un autre aspect auquel j'étais confronté, c'est qu'en particulier pour les années 1820, qui est une période qui aurait été extrêmement riche, les hasards de l'histoire ont fait qu'une partie des archives de Naples, qui étaient dans un dépôt situé en périphérie de Naples, ont été détruites par un incendie perpétré par les nazis en 1943. En gros, j'ai eu des archives assez lacunaires. En fait, c'était un incendie qui est arrivé par accident. En fait, on était au moment où on était à peu près au moment des évolutions politiques assez contrariées que l'Italie avait connues en 1943. Et une des régions stratégiques, c'était cette région de Naples, oui, où il y avait les Américains qui commençaient à arriver, où il y avait un des foyers de l'attachement au fascisme et au roi. qui posait problème, on va dire, pour le contrôle du territoire. Et donc, c'est par accident que cet incendie s'est produit.
Ouais, parce que il aurait été intéressant de savoir s'il y avait eu une autre raison. C'était intéressant.
C'est vrai qu'il y a eu d'autres phénomènes comparables. Par exemple, pour des incendies d'archives, pour des transferts d'archives, il y a des exemples assez connus dans l'histoire du XXe siècle, en particulier pour l'histoire du passé nazi ou du passé soviétique. Néanmoins, c'est pas du tout ce qui s'est produit dans le cas de Naples.
Oui, donc on a là un espace qui est à la fois divers, qui est à la recherche peut-être quelque part d'une unité, et donc un univers qui va avancer avec difficulté vers le patriotisme italien. C'est un petit peu ce que nous allons suivre maintenant. Donc on va peut-être faire une petite pause musicale. Voilà, donc on a écouté le concerto en do majeur pour hautbois de Domenico Cimarosa, qui est donc un compositeur napolitain, qui est mort donc en 1801, donc qui a vécu déjà une période révolutionnaire, je crois.
Alors en fait, il y a une révolution très importante qui marque le royaume des deux Siciles en 1799. On est dans un contexte d'exportation de la Révolution française en Europe qui passe par des guerres. La France essaye d'établir un système de républiques qui sont plus ou moins en lien les unes avec les autres. On appelle ça des républiques sœurs. Finalement, ce qui caractérise le royaume des deux Siciles, c'est que la Révolution impulsée par les Français, qui rejoint les préoccupations d'un certain nombre de jacobins locaux, c'est le cas de Cimarosa, même s'il n'est pas le plus connu. Finalement, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que cette révolution se fait sans l'appui du peuple. Alors on va avoir des jacobins qui après partent en exil. C'est le cas du plus célèbre d'entre eux qui s'appelle Vincenzo Cuoco. Il part en exil à Milan. Il écrit un essai historique sur la révolution de Naples qu'il fait paraître en 1801 pour la première édition. Ça va être réédité ensuite en 1806. Finalement, ce que nous dit Vincenzo Cuoco, c'est que cette révolution, finalement, c'est le contraire de la révolution française. Il nous dit la Révolution française, c'est une révolution qui a été faite par le peuple et pour le peuple. À l'inverse, la Révolution napolitaine est une révolution qui a été prise en charge par des bourgeois, par des élites récentes qui se sont formées à la fin du XVIIIe siècle. Il appelle ça une révolution passive. Et finalement, tout l'objectif des révolutionnaires, de ce qu'on va appeler des libéraux, au sens où ils revendiquent des libertés politiques, tout au long d'une large première moitié du XIXe siècle, ça va être d'essayer de faire en sorte qu'une révolution passive comme celle qui s'est passée en 1799 ne se reproduise pas.
D'accord. Ok. Et donc, jusqu'en 1815, donc cette opinion publique s'est déjà installée dans l'occupation française ou pas ?
Alors en fait, il y a une phase entre 1799 et 1806 où les Bourbons reviennent au pouvoir. Néanmoins, dans le cadre des conquêtes napoléoniennes, il y a une série de campagnes militaires qui aboutissent en particulier à une campagne très célèbre qui a été très commentée. Il y a des livres même récents qui sont des études sur ce sujet. Une campagne qui a eu lieu en Calabre en 1806, campagne qui a été très commentée pour les fusions de violences qui a eu lieu. Il y a des scènes de... Il y a des scènes de déflagration, il y a des scènes de pillage, il y a des scènes de cannibalisme en particulier qui sont restées assez célèbres et qui sont associées en fait à cet épisode. À la suite de cette campagne, la partie continentale du royaume des deux Siciles, ce qu'on appelle en Italie les provinces napolitaines, sont conquises par les Français qui installent un état vassal de l'Empire, dirigé d'abord par le frère de Napoléon Joseph, puis à partir de 1808 par le beau-frère de Napoléon Joachim Murat. Alors c'est un petit peu cette, cet épisode hein, que j'avais essayé d'étudier avec d'autres de mes collègues, hein, comme Mélanie Traversier et Igor Moulier, dans l'ouvrage « Le Royaume de Naples et l'heure française » qu'on a fait paraître l'année dernière. Ce qu'on a cherché à montrer, c'est qu'on avait une expérience particulière de la politique qui s'était mise en place. C'était une expérience de la modernité politique à travers un essai de transférer, en gros, le système politique qui s'était constitué au moment de la Révolution française, c'est-à-dire un système politique jacobin, un système politique centralisé, fondé sur un droit extrêmement codifié, c'est-à-dire le système révolutionnaire tel qu'il a été repris par Napoléon. Ce système-là, finalement, on a essayé de l'adapter au royaume des Deux Siciles, enfin, à la partie continentale qu'on appelait le royaume de Naples. Mmh. En fait, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un certain nombre de résistances locales et un grand nombre des méridionaux, un grand nombre de ces populations d'Italie méridionale ont réagi avec force, ont réagi avec violence à l'imposition de cet ordre centralisé qui passait en grande partie par la taxation. Mmh. Finalement, un des problèmes qu'ils voyaient, c'était qu'ils n'avaient plus le contrôle sur les terres communes qu'ils pouvaient contrôler, qu'ils pouvaient maîtriser finalement à l'époque moderne, hein, c'est-à-dire avant 1799. Cependant, ils déploraient le fait qu'ils étaient soumis à une taxation de plus en plus importante, dont l'objectif était de payer, en gros, la participation napolitaine aux guerres de l'Empire.
Mmh. Oui, donc ça on comprend très bien l'opposition par rapport au morcellement donc, du royaume des Deux Siciles. Donc, c'est certain que ce morcellement il s'accompagnait d'une certaine autonomie de ces petits espaces multiples à l'intérieur du royaume de Naples. Et c'est vrai que cette centralisation ne convenait certainement pas à une partie importante de l'opinion publique, surtout populaire, je pense, qui refusait ce type de d'organisation de l'État. Alors donc, c'est cet État associé donc à l'Empire français, ces États, d'ailleurs États vassaux, qui contribuent, comme vous le disiez à l'instant, aux guerres napoléoniennes. Quand l'Empire français va disparaître, eh ben cet État va disparaître avec, et donc on va assister au retour des Bourbons. Donc ces libéraux du royaume de Naples, que deviennent-ils au retour des Bourbons ?
Alors en fait, au retour des Bourbons, on est à un moment qui s'appelle la Restauration, qui se fait de manière progressive entre mai et octobre 1815. Ces libéraux, pour certains, avaient soutenu le pouvoir de l'occupation française. Néanmoins, c'était une fraction limitée d'entre eux, et la majorité d'entre eux, finalement, à la fin de cette expérience politique du Decennio Francese, avaient rejoint les rangs des sociétés secrètes conspiratrices, comme c'est le cas de la Charbonnerie en particulier. Charbonnerie qui, à partir de 1811-1812, organise l'opposition par rapport au royaume de Murat. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant, finalement, à travers cette transition politique de 1815, c'est de voir que, de manière assez globale, les gens qui vont s'opposer aux Bourbons après 1815 sont des gens qui s'opposaient déjà au pouvoir de la monarchie française d'occupation. Alors on a, en 1815, des tentatives pour essayer d'affirmer l'indépendance, l'unité de l'Italie, sauf que ce sont des tentatives isolées qui se font dans les campagnes. On en a quelques-unes en Calabre qui sont très bien documentées. Il y a eu un cas célèbre en particulier qui venait du pouvoir central, c'était la campagne d'Italie de Joachim Murat, qui a fait une proclamation célèbre à Rimini en mars 1815. Et à ce moment-là, il appelait les Italiens à se réunir derrière son drapeau. Sauf qu'en fait, plus qu'une volonté de réunir les États italiens entre eux, c'est une volonté de se maintenir au trône dans un contexte européen marqué par des recompositions très importantes à l'époque du Congrès de Vienne. En gros, autant ce projet n'a pas été écouté, autant à l'échelle des campagnes, à l'échelle des provinces, des ambitions unificatrices et libératrices qui ont été beaucoup plus périphériques ont pu être beaucoup plus suivies, même si elles n'ont pas été coordonnées entre elles. Et ce qui a été le plus important pour cette opposition, ça a été de contester la politique fiscale. En particulier parce qu'il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont été constatés à partir de 1815-1816. Il y a eu des épisodes de disette, en particulier à l'automne et à l'hiver, à la suite de quoi les contestations ont porté sur le manque de moyens alimentaires, ont porté sur la pénurie, et ce sont ces arguments-là qui ont expliqué le fait que un certain nombre des populations, même si ça restait encore très minoritaire, aient pu se rallier aux libéraux, aux patriotes, qui en 1820-21 ont fait une révolution par laquelle ils ont cherché, en fait, cette révolution n'était pas préparée, ils ont cherché à appliquer un modèle révolutionnaire qui se faisait ailleurs. En gros, le 1er janvier 1820, l'Espagne, par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses généraux, fait une révolution à Cadix, à la suite de quoi elle rétablit une constitution qui avait déjà été utilisée en 1812. L'Espagne, entre-temps, n'avait plus de constitution entre 1814 et 1820. Finalement, que font les patriotes du royaume de Sicile? Ils cherchent à appliquer le modèle espagnol. Ils vont chercher, et la propagande révolutionnaire le montre, à mettre en évidence des parentés, des équivalences entre le personnel politique espagnol et le personnel politique napolitain. En fait, c'est une stratégie de légitimation pour une révolution qui n'est pas préparée. C'est de montrer qu'elle s'aligne sur des standards internationaux, de montrer que finalement elle n'est pas un épisode isolé et qu'elle s'appuie sur des éléments qui relèvent de l'actualité politique européenne.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ces révolutions, elles remettent en cause ce qui a été mis en place par le Congrès de Vienne et le retour de la monarchie et de la...
Alors, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, la monarchie conservatrice se rend compte, la monarchie des Bourbons qui revient au pouvoir en 1815, se rend compte qu'elle ne peut pas revenir sur les acquis de la monarchie française d'occupation, en particulier parce que l'État napolitain s'est retrouvé très fortement bureaucratisé, il s'est retrouvé très fortement hiérarchisé, et finalement, la monarchie napolitaine ne peut plus fonctionner sans cet État après 1815. Mmh. Ça impliquerait un trop gros effort de restructuration administrative, et donc la monarchie bourbonienne, pour pouvoir fonctionner, a prévu la conservation des cadres qui ont été établis par la monarchie du Decennio Francese. Et c'est donc contre cette continuité que vont s'opposer les libéraux à travers une série de révoltes qui commence en 1817 et surtout à travers la révolution de 1820-1821.
C'est-à-dire que les Bourbons, finalement, ils ont récupéré ce qui les intéressait dans l'occupation française, en particulier le centralisme.
Ils ont récupéré ce qui leur permettait de tenir et ce qui leur permettait de pouvoir imposer une autorité à l'échelle nationale.
Donc, un mouvement révolutionnaire au début des années 20. On va l'évoquer dans un petit moment. On va refaire une petite pause musicale. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté de Roberto Alagna avec cette magnifique chanson Sicilia Bella, donc c'est Belle Sicile, bien sûr, avec cette voix extraordinaire, une chanson qui est totalement mezzogiornienne, on dit ça comme ça
Non, on n'utilise pas cette expression-là, on parle de napolitain ou de sicilien, parce qu'il y a deux identités différentes.
Ah voilà, c'est donc sicilien.
Je parlais tout à l'heure des provinces napolitaines, c'est la partie continentale, et il y a deux identités politiques très différentes, en particulier en Sicile, tout au long... de la première moitié du 19e siècle, le problème central, c'est de savoir comment est-ce que cette île peut s'imposer comme étant indépendante par rapport à Naples. Et justement, là où le problème se pose avec une certaine force, c'est pendant la révolution de 1820-1821, puisque la Sicile, qui n'a pas été occupée auparavant par la France entre 1806 et 1815, la Sicile connaît une révolution parallèle à celle de Naples, mais qui s'appuie sur des objectifs spécifiques. C'est-à-dire que les Siciliens essayent d'obtenir leur indépendance, et ce que doivent faire les révolutionnaires napolitains pour s'assurer de la coordination de leur mouvement et de sa crédibilité, du coup, face à l'Europe du Congrès de Vienne, c'est d'essayer de montrer qu'il n'y a pas de problème d'ordre public dans le royaume, de la même manière qu'ils répriment le brigandage dans les provinces périphériques, comme dans les Pouilles, en Basilicate, comme c'est le cas aussi en Calabre, ils essayent de contenir les revendications des révolutionnaires, des indépendantistes qu'il y a en Sicile.
D'accord. Et donc, après cette tentative de révolution en 1820-21, donc c'est un échec.
C'est un échec parce que, en fait, l'Europe du Congrès de Vienne n'autorise pas qu'il y ait des révolutions de ce type-là. Et donc, elle se réunit en congrès régulièrement pour essayer de décider des directions à donner à la politique européenne. En particulier, il y a un congrès important qui se tient au début de l'année 1821, qui s'appelle le congrès de l'EBAC, donc ce qu'on appelait l'EBAC à cette époque-là, c'était le nom autrichien de Ljubljana, c'est l'actuelle capitale de la Slovénie, et finalement ce congrès prévoit l'écrasement de la révolution napolitaine. Ainsi, en mars, il y a une série de batailles qui sont assez commentées par les contemporains entre les Autrichiens et les Napolitains, et le 19 mars 1821, le régime établi par la révolution prend fin, et ce régime est remplacé par une nouvelle restauration du pouvoir des Bourbons sous le contrôle de l'Autriche, qui exerce une occupation militaire directe jusqu'en 1827. La conséquence pour le personnel politique libéral, pour les révolutionnaires, c'est qu'un certain nombre d'entre eux connaissent les expériences de la relégation, que ça soit par l'envoi dans un certain nombre de prisons, dans des bagnes. En gros, il s'agit de les écarter des espaces politiques. D'autres partent en émigration. Un certain nombre sont envoyés en exil. Il y en a aussi qui sont faits prisonniers. Et toutes ces expériences sont amplement commentées. Elles seront par la suite reprises dans les autobiographies, dans les textes de mémoire de ces patriotes qui en feront des expériences de leurs martyrs. Autrement dit, c'est un moyen de montrer par la souffrance, par l'émotivité patriotique, le fait qu'ils sont légitimes pour pouvoir mener leur combat pour la liberté de leur nation.
Oui, c'est-à-dire que finalement, les libéraux sont décapités, en quelque sorte.
Alors, ils sont décapités au sens figuré, évidemment, au sens où ils perdent leur chef, au sens où ces derniers sont en exil.
Voilà.
Alors, en exil, en fait, ils vont s'insérer dans une configuration européenne plus large qui va moins relever de la volonté de construire l'Italie. Il y a beaucoup de travaux italiens qui ont insisté sur le fait que l'exil était une occasion pour construire l'Italie depuis l'extérieur. En fait, on est en train de revenir sur cet aspect-là parce que, précisément, cet espace dans lequel la révolution d'Espagne dont j'ai parlé, la révolution napolitaine, d'autres révolutions comme celle qui a lieu en Piémont en 1821, strictement concomitante de celle du royaume de Sicile, la révolution portugaise en 1822, la révolution grecque qui aboutit à l'indépendance de la Grèce entre 1821 et 1829, sont des révolutions qui participent d'un espace commun de la contestation, de l'opposition en fait à l'ordre de Vienne. On parle maintenant, c'est une expression que j'emprunte à des travaux contemporains, on parle de contre-monde libéral pour désigner cet espace d'opposition transnationale fondé sur l'attachement en fait aux libertés politiques et économiques. Et donc les Napolitains qui partent en exil en 1821, donc ils ont des destinations très variées, il y a des parcours spatiaux qui sont très variés, il y a des espaces dans lesquels certains continuent à se battre finalement dans le cadre de ce contre-monde libéral. En gros, c'est ceux qui vont soutenir la révolution d'Espagne, ceux qui vont en France, ceux qui vont en Angleterre. Néanmoins, la majorité d'entre eux perdent toute activité politique dans l'exil parce que tout simplement ils pensent à leur survie. Et justement, les destinations d'exil sont éloquentes. C'est-à-dire que si on essaye de faire une statistique à peu près sur le nombre d'exilés qui partent dans des terrains d'action politique, on est à moins de la moitié. On remarque que la majorité se rend dans la régence de Tunis, tout simplement parce qu'il est facile d'y aller par voie de mer, pour des questions de proximité géographique. Beaucoup d'entre eux aussi vont dans l'état de l'Église, c'est-à-dire dans l'état pontifical. Il suffit de traverser une frontière, il suffit de passer les montagnes quand on est au nord du royaume des deux Siciles, et il est possible ainsi de se rendre en exil. Et finalement, il y a des liens fréquents qui s'établissent entre ces exilés, des liens qui se perpétuent entre ces exilés, la société du royaume. Ils sont médiatisés par des correspondances, et donc il y a un lien extrêmement fréquent qui continue à s'établir, par lequel certains de ces exilés pensent à libérer le royaume des deux Siciles de l'influence des Bourbons, pour lequel on utilise un terme emprunté au Moyen-Âge. On utilise le terme « malgoverno ». C'est par exemple l'expression qu'on trouve pour la fameuse fresque du bon et du mauvais gouvernement à Sienne. En gros, on voit cette notion politique, qui est une notion politique italienne forte, être réinvestie par les libéraux. À l'inverse, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des exilés entretiennent des correspondances avec la société du royaume, moins pour la politique que pour assurer leur propre survie, c'est-à-dire que c'est plutôt des transferts d'argent qu'on va remarquer par le biais de ces correspondances. En gros, ces expériences de l'exil sont une expérience politique extrêmement inégale pour ces libéraux napolitains, pour ces acteurs de la modernisation politique. Pour les uns, c'est un moyen de faire une expérience de la politique à l'étranger. Pour les autres, et c'est le cas de la majorité d'entre eux, l'intérêt pour la politique disparaît au profit, au détriment des besoins de la survie.
Mmh. Oui, donc ce qui a été perdu pour le royaume des deux Siciles a été quand même gagné en partie pour ce qu'on pourrait appeler le contre-monde libéral. Hein, c'est-à-dire que des liens se sont créés en Europe, peut-être pas par tous les exilés, mais par une partie des exilés.
Alors des liens se sont créés, effectivement, mais ils sont restés extrêmement minoritaires. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des chefs, en particulier libéraux, ça représente à peu près une vingtaine d'hommes sur un personnel politique d'à peu près 3000 personnes, et cette vingtaine d'hommes va s'insérer, au même titre que des gens comme Lafayette, au même titre que des révolutionnaires espagnols, des révolutionnaires piémontais, des révolutionnaires français, dans les réseaux de ce contre-monde libéral. Mais ça reste extrêmement limité. Alors évidemment, l'historiographie, c'est-à-dire la manière dont les historiens ont construit à la fois la connaissance historique et en un sens la mémoire d'une période, finalement l'historiographie italienne a surtout retenu la part de ces quelques exilés, très peu nombreux, en extrapolant, en surestimant leur nombre, en surestimant leur importance, dans des guerres qui ont été perçues comme expérimentales, parce qu'elles auraient permis de construire l'Italie depuis l'étranger.
Mmh. Oui, donc on a là une utilisation du récit de ce que vous appelez le martyrologe, c'est ça, de ces personnalités des deux Siciles, quoi.
Alors de la part des historiens, c'est un petit peu différent parce que en fait, à la fois c'est un problème politique, c'est-à-dire celui de montrer que l'Italie est un pays unifié. Hein, c'est une préoccupation constante de l'historiographie italienne. À partir des années 1860, et ça dure jusqu'à la fin du XXe siècle, on est en train de commencer à discuter cette unité nationale pour montrer qu'il n'y a pas une nation italienne, mais des nations régionales, une nation napolitaine, une nation toscane, une nation lombarde, qui auraient tout autant d'importance du point de vue des registres d'appartenance, du point de vue des sentiments d'appartenance, que la nation péninsulaire. Ce qu'il y a aussi, c'est que ces exilés en fait, qui participent au contre-monde libéral sont les plus connus. Et jusqu'à il y a très peu de temps, on faisait pas trop attention en fait aux acteurs ordinaires qui participaient à la vie politique. On consacrait plutôt une attention plus grande aux protagonistes des phénomènes politiques, en particulier dans le cadre de l'Italie, où la construction nationale se cherchait des pères fondateurs. Finalement, on s'est plutôt concentré sur les figures de proue, on va dire, de ce mouvement national italien et sur les éléments napolitains qu'il pouvait y avoir. C'est un moyen de montrer qu'alors qu'il y a eu un certain nombre de problèmes politiques, en fait, autour de l'intégration de Naples à l'Italie, autour de l'intégration du Mezzogiorno à l'Italie après l'unité, on y reviendra peut-être, j'imagine, par la suite, finalement, il s'agissait de montrer que Naples et le sud de l'Italie étaient bien des espaces de l'Italie et qu'ils avaient bien contribué à la formation de l'unité nationale italienne.
Allez, une petite pause musicale avec la Palumelle.
Vola addostana nella mia, non fermarti, palla via, vola zompa che la la, coliscella la saluta, falla festa. Falla festa, torna, torna, e le adì, canotte giorna, e sto sembra, sospira. Palumè. Vola alla rosa desto cuore, non c'è sta chiù bello sciore che t'avessa da piacere alla torre che tu sente a chi l'occhio, a chi l'occhio, a chi creda raia ca in paradiso tu si chiude ogni palume. Dorma e vena lutantilla, tu la zecca, tu vasilla, e per me n'autoporzina.
Alors donc, la Palumella par un groupe qui s'appelle Cimarosa, en mémoire de son, de l'auteur, de son compositeur, bien sûr. C'est une chanson qui a une résonance politique.
Alors en fait, cette chanson, elle n'a pas été composée par Domenico Cimarosa. C'est une chanson populaire, napolitaine, qui est régulièrement reprise. C'est une chanson politique d'opposition, en fait, qui est utilisée à la fin du XVIIIe siècle contre les Bourbons, puis après contre les Français pendant la Révolution de 1799. On la réutilise à nouveau contre les Bourbons entre 1815 et 1860, et après 1860, on la réutilisera encore contre, en fait, l'Italie, contre les... contre la monarchie italienne, dont on dira qu'elle occupe le sud, qu'elle exerce une tutelle presque coloniale, en fait, sur le Mezzogiorno.
Ah oui, c'est vraiment une chanson à tout faire. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur Radio Zinzine. On écoute donc Marie Nostrum avec Pierre-Marie Delpuy et nous parlons de, du royaume des Deux Siciles dans la première moitié du XIXe siècle. et sa vie, la vie politique qui agite ce royaume. Alors nous sommes arrivés donc au moment de la première manifestation du printemps des peuples, quoi, le 1830, manifestation européenne. Quoi. 1830, c'est marqué par des révolutions dans toute l'Europe. Qu'est-ce qui se passe à Naples ?
Alors je me permets de corriger d'abord un petit peu ce qu'on appelle le printemps des peuples.
C'est
1848. Plutôt 1848.
Je sais,
en 1830, il y a une révolution qu'on a longtemps considérée comme une série de révolutions nationales et dont on commence à comprendre la dynamique européenne, en particulier parce que les exilés y ont participé. Parce qu'il y a un certain nombre de libéraux, de révolutionnaires qui ont pris les armes ailleurs en tant que volontaires. Mmh. Alors il y a eu par exemple des exilés napolitains qui ont effectivement contribué aux Trois Glorieuses à Paris en 1830. Et cependant, alors qu'une grande partie de l'Europe, et en particulier de l'Italie, est frappée par des révolutions, à Naples, il ne se passe absolument rien. On est à un moment où, où les mouvements d'opposition aux Bourbons sont en train de se reconfigurer. En fait, la charbonnerie qui a regroupé en fait l'essentiel des opposants aux Bourbons entre 1815 et le début des années 1820 perd progressivement de l'importance au profit d'autres sociétés secrètes. Et on est en train de réfléchir finalement à la manière dont on peut intégrer le peuple de manière de plus en plus massive à la Révolution. Je parlais au début de cette émission de la Révolution passive telle qu'elle avait été envisagée par Vincenzo Cuoco. C'était en gros ce que cette révolution napolitaine ne devait pas être. Finalement, dans la continuité de ces théories qui continuent à susciter l'intérêt des libéraux napolitains tout au long du XIXe siècle, dans la continuité des théories de Vincenzo Cuoco, on est en train d'envisager les moyens d'élargir finalement la participation politique du peuple. On pense à élargir la base sociale des révolutions. Alors, il y a à la fois une raison pratique et une raison idéologique. Je vais commencer par la raison idéologique, c'est qu'on a un phénomène européen d'apparition des mouvements qu'on appelle démocratiques, c'est-à-dire ceux qui veulent faire entrer le plus massivement possible le peuple dans la vie politique. En France, il y a à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire participer le peuple à la vie politique, on va essayer de faire voter le peuple sans qu'il y ait un appel de réflexion sur le vote. Finalement, la volonté d'inclure le peuple à la révolution est une préoccupation importante, telle qu'on pourrait la retrouver, par exemple, dans d'autres États italiens. Au nord de l'Italie, on trouve ça chez des exilés, en particulier chez Mazzini, qui est un nom bien connu, même si Mazzini ne rencontre pas de partisans, il ne rencontre pas de sympathisants à Naples. À Naples, on a un mouvement révolutionnaire qui va être propre, qui va se former autour des sociabilités locales, hein, c'est-à-dire autour des canaux ordinaires, en dehors de la sphère politique, plutôt en s'appuyant sur des outils de sociabilité, sur des outils de politisation qui ne sont pas au départ politiques. Donc voilà la raison idéologique. La raison pratique, enfin idéologique, même s'il n'y a pas de texte d'idées en fait qui formalise cette vision-là des choses, à la différence d'autres pays, et en particulier à la différence des États d'Italie du Nord. La raison pratique, c'est que pour les besoins de son succès, le mouvement libéral a besoin d'inclure massivement des acteurs populaires et il va pour ce faire réfléchir à des moyens de politiser plus largement le peuple en s'appuyant sur des pratiques qui ont déjà existé dans le royaume des deux Siciles. Il y a une place particulière, en particulier, qui va être dévolue aux prêtres de village qui vont se faire les porteurs du message révolutionnaire, du message politique d'opposition, de contestation. On a déjà eu ça en 1820-21. On le retrouve à partir des années 1830.
Oui, il y a une place importante des curés de paroisse. Hein, j'ai vu dans vos écrits là, une place importante dans la révolution, dans les idées révolutionnaires, dans les idées libérales. Ils sont toujours présents.
Alors, ils apparaissent moins en tant que formateurs du corpus idéologique du mouvement libéral qu'en tant que propagateurs. Oui, tout ça, simplement parce que dans une société qui est très éclatée, qui est fondée autour d'un certain nombre de fonctionnements sociaux qui sont locaux, qui sont villageois, qui sont valéens, en fait, ces prêtres sont très souvent les principales figures d'autorité, à la fois religieuse et à la fois civile. Très souvent, ce sont les seuls qui savent lire et écrire, hein, dans certains villages reculés, et donc ils peuvent interpréter le message politique comme ils le veulent. Et sachant qu'il n'y a pas de coordination de ce mouvement libéral, ces prêtres font passer le message qu'ils ont envie. Et très souvent, pour exploiter le mécontentement qui s'appuie très souvent sur des raisons financières, sur des raisons fiscales, ils se font les porteurs de l'opposition politique aux Bourbons. Ces prêtres, qui étaient déjà très nombreux à partir des années 1820, à s'opposer au pouvoir et à essayer de regrouper autour d'eux les opposants au pouvoir des Bourbons, deviennent de plus en plus nombreux à partir des années 1830, alors qu'ils sont aussi des producteurs de savoir, alors qu'ils sont impliqués dans les académies locales. Ils contribuent à la formalisation de savoir presque ethnographique sur le peuple, qui va servir au mouvement libéral à connaître le peuple pour pouvoir se rendre compte finalement de la manière dont ce peuple vit, pour la manière dont ce peuple peut pratiquer un certain nombre de sociabilités qui vont pouvoir être investies par le politique. En clair, il n'y a pas de plan général, hein, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas, il n'y a pas d'écrit qui montre qu'on va envisager de s'appuyer sur les fêtes, de s'appuyer sur la messe, mais du point de vue des pratiques sociales, en particulier quand on lit les sources de police et les sources de justice, c'est quelque chose qui est extrêmement éloquent. Quand on regarde ces sources-là, on se rend compte que la connaissance des pratiques sociales des populations méridionales a contribué à l'accroissement de la base sociale de la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de gens ordinaires qui ne sont pas des acteurs politiques de premier plan, qui ont rejoint ce mouvement libéral à partir des années 1830. Et tout ça se confirme autour de 1848.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement de masse ?
On peut dire que ça devient un mouvement de masse dans les années 1840. Ce qui contribue à ça, c'est que la participation politique des prêtres, l'utilisation d'un certain nombre de références empruntées à la religion. D'abord, il y a le fait qu'à partir de 1846, il y a un pape qui arrive au pontificat, qui s'appelle Pie IX, qui se présente comme étant le pape national et libéral avant de retourner sa veste au moment des révolutions de 1848. Le fait qu'il y a aussi un contexte idéologique italien qui soit favorable à ces idées-là. En 1843, un prêtre piémontais qui s'appelle Gioberti publie un essai qu'il appelle « Du primat moral et civil des Italiens ». L'idée qu'il développe, c'est qu'il s'agit de créer une confédération des États d'Italie qui serait dirigée par le pape. Alors, on ne lit pas Gioberti dans le royaume de Sicile. Néanmoins, par les correspondances qui réunissent les exilés avec les sujets du royaume, les exilés ont connaissance des écrits de Gioberti. À la suite de quoi ces écrits, ces notions, ces théories sont rediffusées en grande partie par l'intermédiaire des prêtres auprès des populations méridionales. Et c'est ainsi que le terme Gioberti, vidé de son sens, c'est-à-dire on ne sait pas que c'est un nom de personne, devient un cri de ralliement au moment des révoltes qu'il y a dans les années 1840. C'est-à-dire qu'on va crier Gioberti, comme on dirait, mort au roi, comme on dirait, par exemple, vive la liberté, vive la constitution. Et finalement, les gens qui vont porter ces idées-là, on va les appeler Gioberti sans savoir que c'est un nom de personne.
Et est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que l'Église, à travers ses prêtres, cherche à s'approprier le mouvement national italien ?
Alors, il y a deux choses qui sont différentes. D'abord, les prêtres constituent un mouvement qui se fait de manière sporadique, de manière éclatée, qui se fait à la base. À l'inverse, la hiérarchie ecclésiastique est contre ces pratiques-là. À partir de 1820-1821, il y a un investissement qui est fort, un investissement qui est systématique de la part de la hiérarchie de l'Église méridionale pour essayer de contenir finalement la parole potentiellement séditieuse de ces prêtres. Il y a des campagnes de répression auxquelles des évêques vont participer. On envisage des sanctions contre les prêtres libéraux. Et d'autre part, finalement, le soutien du pontificat au mouvement national italien, c'est encore autre chose. Il n'envisage pas forcément le royaume des deux Siciles comme étant un territoire prioritaire. Finalement, il s'agit de diffuser un certain nombre d'idées, de diffuser un certain nombre de valeurs dans lesquelles les Italiens pourront se reconnaître et qui pourront faire du mouvement national italien quelque chose de légitime. En gros, jusqu'en 1848, et ça va être le cas encore un petit peu après, ce mouvement libéral qui se constitue dans ce qui est encore la nation napolitaine, est quelque chose qui est assez distinct du Risorgimento, comme s'il y avait deux mouvements qui se faisaient en parallèle. D'un côté, le mouvement d'unification nationale porté par des patriotes qui se fait plutôt de manière déterritorialisée, ça se fait plutôt en exil, ça se fait aussi dans certaines villes du nord de l'Italie, dans certains coins qui sont particulièrement soumis à l'influence autrichienne. À l'inverse, les formes de la politisation libérale dans le sud sont marquées par d'autres problèmes, et en particulier par l'opposition au Bourbon. Pour une grande partie des libéraux, Même jusqu'à la fin du 19e siècle, en fait, c'est la nation napolitaine qui reste première sur le Risorgimento italien et sur la construction nationale de l'Italie.
Donc, ce royaume des deux Siciles reste quand même un espace qui est coupé finalement du mouvement national italien ou pas ?
Alors en fait, le lien avec le mouvement national italien, il est assez complexe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des patriotes à l'époque de ce que j'ai appelé le contre-monde libéral à la suite d'autres historiens dans les années 1820-1830. Il y a des liens, il y a des réseaux qui réunissent ces chefs patriotes napolitains avec des chefs patriotiques italiens. Sauf que le principal courant qui se fait le porteur de l'idée nationale italienne, évidemment il n'est pas le seul, ça va être le courant mazzinien, ça va être en gros la jeune Italie que Mazzini fonde à Marseille en 1831. Ce mouvement, je le disais, a très peu d'écho dans le royaume des deux Siciles, où ce sont plutôt des problèmes internes qui demeurent prééminents. Par conséquent, jusqu'en 1848, au moment où en fait la propagande italienne investit le royaume des deux Siciles, il n'y a pas de véritable lien entre ce Risorgimento qui se fait plutôt chez des patriotes, plutôt chez des élites et plutôt au nord, et d'autre part ce mouvement de politisation méridionale. Alors ce qu'on constate et qui est particulièrement intéressant, c'est de voir qu'au cours de la révolution de 1848, où le royaume des deux Siciles est un des premiers à se révolter, hein, c'est-à-dire qu'en 1847, il y a parmi les premières manifestations européennes de la future révolution du printemps des peuples, des révoltes qui ont lieu en Calabre, qui sont sévèrement réprimées par le pouvoir. Il y a ensuite, et ça va être le cas en particulier, à Palerme et à Naples, une série de révoltes qui vont éclater en janvier 1848, qui vont amener la révolution dans le royaume des deux Siciles, et c'est une des premières d'Europe, en fait. On est un mois et demi avant les journées de février de France, et finalement, l'idée d'Alexandre Dumas, selon laquelle la France est la locomotive qui mène les peuples d'Europe vers la liberté, selon une métaphore ferroviaire qui est très présente chez les libéraux de cette époque-là, eh bien finalement, en fait, elle est fausse si on compare les chronologies de ces révolutions à l'échelle européenne. Et finalement, dans ce contexte où se développent les ambitions nationales de l'Italie, elles servent de prétexte finalement aux libéraux napolitains, aux opposants aux Bourbons, pour donner un contenu à l'opposition aux Bourbons. Par exemple, ce qu'on fait, ce qui est assez fréquent dans une révolution qui est assez teintée de religiosité, c'est-à-dire que les prêtres y jouent un rôle important, le culte des martyrs y joue un rôle très important, on va rajouter une tonalité italienne qui n'existe pas forcément à ces événements politiques proprement napolitains, voire locaux ou éventuellement villageois. Par exemple, on a un exemple au printemps 1848 d'un prêtre de Calabre, d'un prêtre d'un village de Calabre, qui détruit un portrait du roi Ferdinand II, qui est à ce moment-là le roi du royaume de Sicile, pour le remplacer par un portrait de Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II qui est au même moment le roi du Piémont-Sardaigne et qui veut capter finalement le mouvement national italien. Le problème qu'il y a, c'est qu'en même temps, il dit proclamer une république. Ce qui montre qu'il y a une incertitude sur les contenus politiques, qu'il y a une incertitude sur les concepts politiques. Il y a une incertitude aussi sur l'échelle à laquelle on veut construire la liberté politique. D'un côté, on reste attaché à la nation napolitaine, mais en même temps, on envisage l'Italie comme une communauté de peuples unis par un lien fraternel, une communauté de peuples qui ont un destin commun et qui peuvent se prévaloir finalement d'un certain nombre de traits communs qui les réuniraient et qui leur permettraient d'être à la tête d'un mouvement politique, qu'il soit national ou pas, d'ailleurs, qui serait cohérent.
D'accord. Alors donc, pour terminer en deux mots, entre 48 et 60, c'est-à-dire l'unification, le rôle du royaume des deux Siciles, quel est-il ?
Alors, c'est difficile de parler d'un rôle du royaume de Sicile, voilà. D'autant qu'après 1848, en fait, une grande partie des libéraux de ce royaume partent en exil, tout simplement parce qu'il y a une très importante campagne de répression et d'épuration qui va toucher la totalité de ce royaume. Une grande partie d'entre eux partent en exil, ou alors ils sont mis en prison, quelques-uns sont exécutés. En gros, ce qu'on constate, c'est que le mouvement libéral est privé de ses chefs et qu'il doit se reconstruire, en fait, autour d'un certain nombre de mobilisations sans grand rayonnement. Ces mobilisations vont contraster à travers la fortune que vont connaître certains héros, certains martyrs de la cause politique, de la cause patriotique napolitaine, et en particulier une figure de prisonnier qui s'appelle Carlo Poerio, qui est très amplement commentée par la presse étrangère, et finalement, ces persécutions commises par la monarchie napolitaine sont au centre d'un certain nombre de débats européens, en particulier au moment de la guerre de Crimée en 1856. À la suite de quoi, c'est par une intervention extérieure qui est nourrie du retour des exilés, qui se fait de manière progressive à la fin des années 1850, que peut s'effectuer finalement l'intégration de ce royaume à l'Italie, qui s'effectue principalement au moyen de l'expédition des 1000 de Garibaldi en 1860. Alors Garibaldi, à la différence des anciens libéraux, a bénéficié d'un accueil extrêmement favorable de la part des populations de ce royaume, et par conséquent, l'accueil qu'il a reçu a contribué au succès finalement du mouvement national italien dans ce royaume traditionnellement rétif aux révolutions. Ainsi, en 1860, le plébiscite par lequel on envisage, par lequel la monarchie de Piémont, qui devient une monarchie italienne, envisage le rattachement du royaume de Sicile à l'Italie, rencontre un succès écrasant auprès des populations méridionales. Ce qu'il faut retenir finalement de cette évolution, c'est que c'est plus par des facteurs endogènes que ce royaume des deux Siciles est devenu italien, plus par des facteurs étrangers, pardon, par des facteurs exogènes que ce royaume des deux Siciles est devenu italien, que par des facteurs endogènes, où il y a plutôt soit des formes de résistance à la construction nationale de l'Italie, soit des formes de mobilisation politique qui sont beaucoup trop éclatées pour pouvoir être efficaces. Et après l'unification italienne, la place du royaume des deux Siciles dans le Mezzogiorno reste extrêmement problématique. Elle l'est encore aujourd'hui. Il y a des mouvements, comme c'est le cas du mouvement néo-bourbonien, on n'en parle pas trop en France, mais en Italie, il fait beaucoup parler de lui, qui réclame finalement l'indépendance de ce royaume, qui redeviendrait finalement une monarchie qui reviendrait aux héritiers des Bourbons. Par conséquent, c'est la place de l'Italie, c'est la tutelle du royaume de l'ancien royaume italien, la tutelle de l'actuelle République italienne qui est presque perçue comme une forme de colonialisme qui va motiver ces résistances à l'italianité qui vont s'appuyer sur une forte, sur un fort succès finalement de cette histoire napolitaine, ce fort succès de l'héritage des Bourbons auprès du peuple méridional. Là encore, il y a encore des variations, puisque ce phénomène-là est particulièrement marqué dans la ville de Naples, il ne l'est que très peu dans les provinces.
Eh bien, écoutez, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Pierre-Marie Delpuy, je vous remercie infiniment de toutes ces explications.
Je vous remercie.
Vous reviendrez certainement nous voir.
Avec plaisir.
Lorsque vos prochains programmes de recherche arriveront à leur terme. Je voudrais rappeler simplement aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter donc le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h sur 88.1 et qu'ils peuvent également nous écouter donc sur le site de radiozinzinex.org où ils peuvent également télécharger nos émissions sur donc dans la rubrique émissions Mare Nostrum. Vous y trouverez également un lien vers une messagerie où vous pouvez laisser des remarques, des questions. Vous trouvez également un lien pour la page Facebook Mare Nostrum, une émission de Radio Zinzin, où sont annoncées les émissions et la rediffusion, ainsi que quelques informations complémentaires sur le thème des émissions. Au revoir, à bientôt.
Adorno fuoco goce ma si fuglie e lascia sta e non te copri a priesse non te struie solo a guardar fiammo, fiammo ancora Yeah.